L'amorce. L'amorce avec Jean-Simon Buis.
Il est 5 APL au FM 93. Bon matin, bienvenue dans l'amorce. J'espère que vous avez passé un agréable week-end parsemé de soleil. Vous avez fait le plein de vitamine D. Faites pas mal froid pendant la fin de semaine, mais on a eu droit vraiment à du soleil toute la journée, samedi, dimanche. Ça fait du bien un petit peu de réussir à prendre un peu de lumière parce que Dieu sait que le soleil se couche tôt, qu'on n'a pas beaucoup de luminosité ces temps-ci. Hein. On est rendu à 16h09, le coucher du soleil pour ce soir. Alors, on prend toutes les minutes possibles d'ensoleillement qu'on peut avoir, hein, parce que franchement, il nous reste plus grand-chose. Et puis, il fait froid en plus, donc on essaie de prendre ce qu'il y a de positif, parce que compte tenu des conditions météo aussi environnantes, là, la quantité de neige qu'il y a eu, puis là, je vous annonce que dans les prochaines heures, puis la nuit prochaine en plus, on risque d'ajouter à ça de la pluie verglaçante, ben on essaie de se raccrocher aux petits éléments qui font en sorte que, finalement, c'est pas si mal que ça, compte tenu du soleil, notamment, qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du soleil qui est prévu, généralement ensoleillé toute la journée avec un maximum de moins 1, donc pas trop froid pour la journée. C'est la nuit prochaine que ça va se gâter avec un ennuagement, de la neige qui va débuter et puis ça risque de se transformer en pluie verglaçante. Et là, les risques sont plus importants, particulièrement sur la rive sud, en Beauce. Québec aussi, on risque d'en recevoir. Mais donc, c'est un mélange de neige et de pluie verglaçante. Il va falloir être prudent. Demain, mardi, le maximum est prévu à 0, avec de la neige encore une fois. 5 cm de neige qui sont prévus. Mercredi, pas de précipitations qui sont à l'agenda, c'est seulement des nuages par contre, maximum de 1. Et à long terme, on reste avec une tendance un peu plus chaude, avec 2 degrés jeudi, retour du soleil. Et présentement, à Québec, on a quand même moins 11, donc c'est pas chaud. Il y a un an, presque exactement, en fait c'était hier qu'on en célébrait le premier anniversaire, c'est un événement d'envergure mondiale qui a pris beaucoup d'ampleur. Hein. Je parle des gilets jaunes en France. Hein. Souvenez-vous, ça a commencé de façon assez impromptue, assez surprenante, quand des centaines de milliers de Français ont commencé à débarquer dans les rues pour exprimer un certain ras-le-bol. La bougie d'allumage, ça a été une hausse de taxes sur l'essence, mais rapidement, c'est devenu beaucoup plus que ça, hein, avec des revendications d'une certaine classe de Français qui se sentaient un peu laissés de côté par l'establishment, par le nouveau mode économique, la mondialisation notamment. Et un an après, le mouvement fonctionne encore, mais il faut dire qu'il est beaucoup moins fort. Là. C'était un peu la commémoration de la première année du mouvement des Gilets jaunes hier. De 300 000 au plus fort des manifestations, on est passé autour de 28-30 000. Donc, vous voyez que ça a quand même beaucoup baissé en termes d'intensité. Mais reste que c'est un événement d'ampleur, d'envergure, qui a fait des petits un peu à travers le monde et qui a fait énormément jaser à l'international. Alors, ça valait la peine de vous en glisser un mot là-dessus. Il y a eu encore, malheureusement, là, des actes de vandalisme à déplorer par rapport à ça. C'est toujours ça le problème, c'est que les revendications en arrière de ça, il y a peut-être du légitime, mais il y a souvent des gens qui en profitent pour faire des gestes de vandalisme et des choses un peu recommandables, ce qui fait en sorte que ça éclipse un petit peu le message des gens qui descendent dans les rues. Au menu ce matin, on va parler de langue française, parce que le Journal de Québec a fait un sondage avec le groupe Léger pour parler un peu de la situation du français au Québec. Et force est d'admettre que les gens ont de plus en plus l'impression de ne plus se faire parler au Québec. Et il y en a 60% qui pensent que la situation du français se dégrade. C'est un sondage qui a été fait dans les derniers jours et qui démontre que la plupart des francophones se disent préoccupés par l'avenir de leur langue et pensent que dans les dernières années, ça s'est détérioré. Alors, précisément, 60% des gens se disent préoccupés par la place du français au Québec. 70% chez la majorité francophone, donc sans grande surprise, c'est un peu plus élevé chez les francophones. Et en fait, c'est que les gens ont l'impression notamment de voir davantage d'anglais dans la vie de tous les jours, notamment de se faire aborder un peu plus en anglais qu'avant. Donc, je vous donne quelques exemples de questions qui ont été posées. On a demandé aux Québécois, comparativement à il y a 10 ans, est-ce que vous vous faites aborder plus souvent, aussi souvent ou moins souvent en anglais? Donc, dans les commerces, il y a quand même beaucoup de gens, 29% des gens qui disent qu'ils se font aborder plus souvent qu'il y a 10 ans en anglais. Dans la vie de tous les jours, 28% et au travail, 20%. Donc, c'est pas des majorités, mais c'est quand même des proportions relativement importantes qui démontrent que les gens ont la sensation, l'espèce d'impression que l'anglais prend plus de place un petit peu. Et il y a aussi ce qui ressort, ça c'est intéressant, on a l'impression que du côté des citoyens, que c'est plus nécessairement le rôle du gouvernement d'agir en lien avec la langue française. Alors que vous savez, du côté de la CAQ, on cherche à faire une réforme de la loi 101. Là. Dans les prochaines semaines, prochains mois, ce sera sans doute à l'agenda de l'Assemblée nationale. Ça va être d'ailleurs le ministre de toutes, le ministre Jolin Barrette, qui serait à la tête de cette réforme-là de la langue française, de la loi 101. Ben, il semble que la plupart des citoyens, en tout cas ceux sondés par le Journal de Québec, pensent que c'est l'affaire des citoyens de s'occuper de la langue française et de la préserver. 58% des gens pensent que c'est l'affaire des gens, alors que 32% pensent que c'est la responsabilité du gouvernement. Et quand on parle de responsabilité des citoyens, ben pour les gens, c'est d'une part souvent exigé dans un commerce d'être servi en français. Ils sont plus de la moitié, à 53%, à croire que c'est la bonne solution. Donc d'exiger, par exemple, quand vous rentrez dans un commerce à Montréal, de vous faire parler en français. Il faut dire que c'est vrai que c'est une problématique qui est surtout montréalaise. On s'entend que, j'ai déjà entendu anecdotiquement certains cas à Québec, là, notamment en saison touristique, de gens qui se sont fait répondre en anglais. Mais en général, c'est surtout une problématique montréalaise. D'ailleurs, au Québec, ça se passe assez bien en général. Le fameux bonjour, hi, c'est pas quelque chose qu'on a trop dans la capitale nationale. Mais c'est quand même intéressant de voir un peu la perception des gens par rapport à la situation du français. Puis de toute façon, ça a été fait auprès de Québécois de partout dans la province. Et la plupart des gens pensent que la situation du français est moins bonne qu'il y a 10 ans, 56%, et 56% également pensent qu'elle sera moins bonne aussi dans 10 ans, donc que la pente continue à descendre. Fait curieux, peut-être, remarquez, ça peut s'expliquer par un paquet de raisons, là, mais il semble vraiment que les baby-boomers, les gens de 55 ans et plus, se sentent plus préoccupés par la qualité de la langue française et pensent que c'est plus important de s'y attaquer présentement que les jeunes. C'est vraiment une proportion plus importante des 55 ans et plus que des milléniaux, par exemple, qui croient qu'il y a une problématique en ce moment avec la langue française et qu'il faut s'y attaquer. Et pourtant, si vous regardez la manière dont les jeunes de ma génération écrivent sur les réseaux sociaux, mettons qu'on aurait tout intérêt à s'en préoccuper un petit peu puis à voir qu'il y a du travail à faire côté langue française. Aucun doute. En politique, en fin de semaine, il y avait un congrès politique de parti politique à Longueuil, celui de Québec solidaire. Il y avait des centaines de militants qui étaient rassemblés pour discuter du programme, donner leur confiance aussi aux deux co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé. Mais force est d'admettre que peu importe ce qui se passe, et qu'elle soit là ou pas là, ben c'est encore Catherine Deriot qui fait la manchette en lien avec le congrès. Et là, c'est particulier parce que le congrès s'est tenu sans la présence de Catherine Deriot. Donc, elle n'était même pas sur place. Et pourtant, ben qu'est-ce que les gens posaient? Ben, qu'est-ce que les médias ont demandé, notamment aux chefs qui étaient sur place, aux militants? C'est où est Catherine Deriot? Pourquoi elle n'est pas là? Essayez de nous expliquer pourquoi une de vos vedettes n'est pas au congrès de Longueuil. Et évidemment, ben les mauvaises langues ont dit, ben c'est parce qu'elle veut pas se faire poser questions sur son accoutrement, puis sur les dernières controverses, dans les dernières semaines sur la photo d'Halloween, puis le coton ouaté. Mais quand on a questionné Gabriel Nadeau-Dubois, le co-porte-parole de Québec solidaire sur la question, il a dit que c'était simplement pour participer à la campagne dans Jean Talon.
Donc, on a fait le choix de garder, disons, une de nos vedettes régionales sur le terrain avec Olivier, et on a demandé à Olivier de nous donner quelques heures en ce beau dimanche pour venir rencontrer les médias nationaux. Je pense que c'est important dans une campagne électorale. Et pour venir aussi rencontrer les militants, les militantes.
Et Mme Deriot fait quoi pendant ce temps-là?
Elle est toujours sur le terrain dans Jean Talon en train d'aider.
Sauf que, ben oui, évidemment, il y a la campagne électorale dans Jean Talon. Vous le savez, là, les citoyens de Jean Talon seront appelés aux urnes le 2 décembre prochain pour élire le successeur de Sébastien Proulx. Sauf que lorsqu'on est allé questionner du côté des organisateurs de la campagne dans Jean Talon, c'est Rémi Nadeau qui en parle dans le Journal de Québec ce matin. Ben il y a personne qui les gens disent ben c'est pas notre demande que Catherine Deriot était présente dans la circonscription. Donc est-ce que c'est elle-même qui a voulu être là pour faire campagne pour le candidat de Québec solidaire, Olivier Bolduc, ou bien c'est une demande de l'establishment, ou encore, ben, comme beaucoup le soupçonnent, c'est parce qu'elle voulait pas se faire questionner là-dessus. C'est spécial, d'autant plus que, comme vous avez pu entendre Gabriel Nadeau-Dubois le dire, ben, le candidat de Jean Talon lui-même était pas sur place dans la circonscription hier. Il était de passage au congrès pour se faire parler aux médias nationaux, puis rencontrer les chefs, puis prendre un peu de place dans les médias. Alors, ben oui, même quand elle n'est pas là, c'est un militant qui est toujours dans la même chronique qui dit, même quand elle n'est pas là, elle vole la vedette quand même, et on en parle tout de même de Catherine Deriot. Un autre cas qui m'a intéressé ce matin, ça se passe pas à Québec, mais je trouve que c'était éloquent sur une situation qui doit se répéter un peu partout au Québec, peut-être même dans la ville de Québec. Ce serait intéressant de savoir s'il y a des situations similaires qui se sont produites. Vous savez que les groupes religieux, au Québec, ils ont certaines exemptions de taxes, notamment sur les locaux. Donc, si vous avez un local qui est un lieu de culte, ben vous payez pas, par exemple, de taxes foncières. Je vous donne un exemple assez clair. L'église de Scientologie, l'immense bâtisse de l'église de Scientologie dans le quartier Saint-Roch, elle n'est pas taxable foncièrement parce que c'est un local pour pratiques religieuses. Okay? Et c'est comme ça pour tous les groupes religieux au Québec. C'est comme ça pour les presbytères, par exemple, et différents lieux de culte. Et là, on apprend que dans Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, il y a un prêtre qui se faisait passer pour un évêque, un prêtre qui a déjà été catholique, mais qui fait plus partie de l'Église catholique, qui, pendant des années, a réussi à éviter de payer des taxes en affirmant qu'il avait un presbytère. En fait, que sa maison, en quelque sorte, était un lieu de culte. Puis vous avez la photo dans le Journal de Québec ce matin, là, c'est vraiment une maison, cottage, standard. Puis lui disait, ah ben ça, c'est mon presbytère. Une propriété qui est évaluée à 271 400 $. Et ça fait depuis 2009 que cet individu-là n'a pas payé de taxes à l'endroit où est-ce que sa maison, c'est-à-dire à McMasterville, en Montérégie. C'était un prêtre qui pratiquait, comme je vous le disais, dans Hochelaga-Maisonneuve à l'époque. Et donc, ce serait 30 000 $ en impôts fonciers qu'il n'aurait pas payé depuis 2009. C'est quelqu'un qui, pourtant, a été un peu mis au banc de sa paroisse en 2007. Donc, c'est pas quelqu'un qui est au sein de l'Église catholique. Sauf que lui, s'est tricoté une espèce d'église, là. Écoutez ça, la Sainte Église catholique charismatique du Canada, qu'on connaît pas trop, et puis qui n'a pas de lien avec l'Église catholique romaine. Lui se présente comme Monseigneur Apestegui. Le nom du monsieur, c'est Charles-Eugène Apestegui. Et puis, il a réussi à avoir la permission d'utiliser sa résidence comme une chapelle, où il est donc un lieu de culte en quelque sorte. Et donc, lui a réussi après ça à arriver à la ville et à dire « Ben oui, chez nous, c'est un presbytère, c'est un lieu de culte, c'est religieux, donc j'ai pas à payer de taxes foncières. » Sauf que finalement, ben là, on s'est rendu compte de ça. Et on nous dit à partir de maintenant, ben ce gars-là va devoir payer parce que, dans le fond, cet avantage-là, on n'a pas indiqué à ce monsieur-là, à aucun moment, qu'il n'avait pas le droit de le faire. Fait que ça fait en sorte qu'il a réussi à profiter d'un avantage auquel il n'est pas dû, parce que finalement, là, c'est pas réellement un lieu de culte, c'est quelque chose d'un peu louche, en quelque sorte. Est-ce que c'est quelque chose qui se reproduit à la quantité de centaines de groupements religieux, de groupuscules qui existent au Québec? Ben, c'est fort possible que quelque part au Québec, ailleurs, il y ait d'autres prêtres autoproclamés avec des petites religions ou des petits groupes tout simplement là qui essaient de s'en tirer en termes de taxes foncières simplement parce qu'ils ont un lieu qui ont décidé ma maison c'est mon lieu de culte, c'est mon presbytère. C'est une faille assez importante sur laquelle faudrait se pencher parce que c'est peut-être beaucoup d'argent qui échappe aux municipalités de cette façon-là. Il est 5h presque 13, on prend une courte pause et dans quelques instants, on discute de sport.
Doc Mayou et José.
Lundi au vendredi dès 9h30
au FM. 93.
Pour tous vos examens de radiologie, Clinix, un seul nom, trois localisations, La Cité, Leménil et à Val-Bélair.
Clinix, des experts, un groupe, une force.
Une équipe dévouée. Mylène, Geneviève, Bernard, Daniel, Valérie, Caroline, Vincent, Samy, Johan, René, Isabelle.
Pour vos examens de radiologie, Clinix, près de chez vous, pour vous.
Parce que votre santé nous tient à cœur.
653-9933.
ClinixImagerie.com.
Quand vous mangez au parmesan, vous goûtez une tradition familiale que Luigi a ramenée d'Italie il y a maintenant 45 ans. Goûtez au meilleur veau parmigiana à Québec. Le jambon, le saumon fumé, le prosciutto et le vinaigre balsamique sont toujours préparés par Luigi lui-même. Laissez-vous tenter par les manicotti à la Luigi avec ricotta, épinards et le vrai parmesan reggiano. Et le prix? La table d'hôte du soir est à partir de seulement 29,95 $. Au parmesan, avec l'accordéoniste à tous les soirs, vivez la Dolce Vita. Service de voiturier gratuit.
Toi, aller conduire les enfants à l'aréna à 6h30 du matin quand il vient de tomber deux pieds de neige. Tu veux ça? C'est sûr! Avec ton nouveau RAV4 2020 de chez Boulevard Toyota, généreusement équipé, dont les sièges chauffants de série, tous les prétextes sont bons pour prendre la route. À partir de seulement 30 404 $ ou 89 $ par semaine en location 64 mois, cet hiver, tu veux ça. Boulevard Toyota, tu veux ça.
RAV4 LEFWD, location sans acompte, 277 versements, 100 000 km à louer et 17 000 km excédentaires. Taxe en sus.
Le plus grand développement résidentiel de l'histoire de Québec voit le jour dans le Bourgneuf.
Quartier Mosaïque.
Les pieds dans la nature, mais à deux pas des galeries de la capitale et quelques minutes du centre-ville. Un accès incomparable à tout ce qui rend la ville de Québec si attrayante.
Quartier Mosaïque.
Un milieu vivifiant et créatif qui allie appartements, condominiums, résidences pour aînés ainsi que des commerces de proximité. Inscrivez-vous maintenant sur la liste VIP afin d'obtenir priorité.
Visitez maintenant quartiermosaïque.com.
Vos dettes vous étouffent? AlexandreOuellette.com. AlexandreOuellette.com consolide vos dettes, diminue vos paiements afin de rebâtir votre crédit.
Moi, avant, mes dettes m'étouffaient. Mon salaire passait tout en paiement. J'étais à bout de souffle. J'ai appelé AlexandreOuellette.com. Il a consolidé mes dettes. J'économise maintenant 1 200 $ par mois.
Avant le syndic, faites comme de nombreux clients satisfaits. Appelez AlexandreOuellette.com.
Vos dettes vous étouffent. Le seul nom à retenir, AlexandreOuellette.com. 10-4.
AlexandreOuellette.com.
T'as bien beau mettre le son dans le fond en tapant dans le front.
T'as bien beau.
T'as bien beau jouer des grosses tunes sales, même un peu de métal.
T'as bien beau.
T'as bien beau descendre toutes les vitres, marcher ta gomme vite.
T'as bien beau.
T'as bien beau. T'as bien beau. Mais ça te réveillera pas pour autant.
Quelle que soit l'heure, au volant, méfie-toi de la fatigue. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Ma fille Annie-Claude est venue au monde très sévèrement handicapée. Annie a parlé avec ses yeux. Elle est super attachante, puis elle sait ce qu'elle veut. Si on n'aurait pas eu Laura les Merveilles, je me demande ce qu'on ferait. Je me demande ce que les parents feraient.
Laura les Merveilles permet à chaque enfant de s'accomplir, malgré leur situation d'handicap multiple et sévère, en offrant des services adaptés et novateurs. Chaque don fait la différence. LaurentLesMerveilles.ca.
MaBoutiqueRadio.ca. Toujours des rabais de 50%.
50% au Belga Resto Bar, Passe-Temps 3000, 1-800 Got Junk, Spa Infinima, Mega Fitness Gym et chez Extermination Plus.
En vedette cette semaine, Sport Opus Sainte-Foy et sa grande sélection d'articles de sport neufs et usagés. Vous trouverez des cartes cadeaux de $50 à $25. Une belle idée pour les fêtes.
Et découvrez le musée miniature de l'architecture Ludovic Amilan à Fleur de Lys. Obtenez deux admissions à moitié prix.
MaBoutiqueRadio.ca.
L'amorce avec Jean-Simon Buis. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
5h16, bienvenue dans l'amorce en ce lundi 18 novembre 2019. D'abord, on fait un tour à la météo. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines heures? Des bonnes et des mauvaises nouvelles. D'abord, pour la journée, c'est des bonnes nouvelles. C'est du soleil, généralement ensoleillé toute la journée. Maximum de -1, donc relativement confortable à l'extérieur. C'est dès ce soir que ça se gâte un peu, par contre, ennuagement qui est prévu en soirée. C'est suivi par de la neige qui devrait débuter plus tard avec 2 cm possibles en accumulation. Et le tout pourrait se changer en pluie verglaçante compte tenu des mercures qui frôlent le point de congélation. Et le pire de la pluie verglaçante, ça devrait être sur la rive sud et en Beauce. C'est ce qu'on attend, là. Et pour ce qui est de Québec, ça se peut qu'on en ait également. Donc, on risque d'avoir un joyeux mélange de neige et de pluie verglaçante la nuit prochaine, ce qui risque de rendre des conditions un peu douteuses sur la route à côté de demain. C'est zéro qui est prévu pour mardi avec de la neige, accumulation prévue de 5 cm. Mercredi, des nuages, ça va être gris avec 1 degré. Une tendance à peu près dans ces températures-là, autour de 1-2 degrés jusqu'à jeudi, vendredi. Et présentement, c'est quand même assez froid à Québec. Il fait moins 12. Le collègue Dan Pou est en vacances cette semaine. C'est Willy Boivin qui frappe en relève et qui vient nous parler de sport chaque matin dans l'amorce. Bon matin, Will.
Salut, bon matin.
D'abord, on va parler de... Ben, je sais pas s'il faut que je sois heureux ou malheureux de cette victoire-là. Tu sais, quand t'es fan du Rouge et Or, t'as le temps le pincement au cœur du fait qu'il ait perdu contre les Carabins. Mais reste que l'équipe québécoise a gagné la Coupe UTEC puis s'en va à la Coupe Vanier.
Exact, exact. Donc, les Carabins seront de la Coupe Vanier ce samedi au Stade TELUS et ils vont affronter les Dinos de Calgary qui, eux, ont gagné dans le West contre McMaster. C'est pas une grande surprise de voir ces deux formations-là en finale de la Coupe Vanier, d'autant plus que le Québec, donc les champions, les Carabins, affrontaient les Maritimes. Et les Maritimes, habituellement, ben, c'est un passe-droit pour la Coupe Vanier. Les Carabins ont gagné 38-0 lors des trois dernières Coupes UTEC qui impliquent les Maritimes. 182-3 le pointage.
Ish.
T'sais, pis, le Rouge et Or est en vacances. Western Ontario est en vacances également. Ça, c'est les deux équipes qui se sont affrontées en finale de la Coupe Vanier l'année dernière. et que ces formations-là soient éliminées et que les Maritimes aient un passe-droit pour jouer la demi-finale canadienne. Sérieusement, le U Sports devra se pencher sur le dossier parce que là, c'est rendu une vraie joke. Et de voir une demi-finale qui est supposée être un match serré, ouais, se terminer 63-0, 63-8, ça n'a pas de bon sens.
C'est clair. Non, c'est... Mais en même temps, il faut quand même que tu inclues les équipes des Maritimes dans la Ligue. Ouais. Tu ne peux pas les exclure.
Ben, non, mais ils peuvent faire leur championnat pour eux-mêmes. C'est qu'on on a les quatre ligues. On a les Maritimes, le Québec, l'Ontario et l'Ouest. Et là, donc, les demi-finales canadiennes impliquent les champions de chaque ligue. Mais les Maritimes sont vraiment pas de calibre avec les autres. C'est dommage. Mais que le Rouge et Or soit en congé et que les X-Men d'Acadia aient joué la demi-finale canadienne, c'est complètement... C'est impensable.
Carabins vont jouer contre qui? Est-ce qu'on le sait déjà?
Oui, les Dinos de Calgary. Donc, ce sera les Bleus.
Les habitués, eux autres.
Ouais, les Bleus contre les Rouges, mais sans le Rouge et Or, malheureusement. Donc, les partisans, quand même, qui ont un chandail du Rouge et Or, au moins auront les mêmes couleurs que les Dinos. Mais sérieusement, j'espère, Jean-Simon, que les gens vont se ranger derrière les Carabins. Sans se peinturer la face en bleu, acheter le chandail du carrière, puis crier Go, Carabin, go. J'espère que les gens vont tout de même se ranger derrière Montréal, parce que c'est l'équipe du Québec. Il y a plein de jeunes joueurs des Carabins qui viennent de Québec, qui ont joué pour le Blizzard du Séminaire Saint-François, pour les Élans de Garneau et tout ça. Alors, j'espère qu'on va se ranger derrière eux et aussi pour te démontrer à tout le monde au Canada que le meilleur football se joue ici dans la province.
Je veux qu'on parle de hockey un peu, Will, parce que en fin de semaine, le Canadien jouait contre les Devils du New Jersey. Puis bon, quand on voit un gars comme Zdeno Chara se faire huer sur la patinoire du Centre Bell, soit, on comprend, il y a du tout ordinaire. Mais je vais t'avouer que j'ai été jeté à terre quand j'ai entendu les gens huer piquer Subban.
Ouais, moi aussi. Et le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est « cheap ». Je pense de faire ça. Piqué n'a pas demandé à quitter Montréal. On sait qu'il porte encore Montréal dans son cœur. Il a même pris la peine, un jour de match, d'aller visiter les enfants de l'hôpital où il a fait l'hôpital pour lequel il a fait un don.
Ouais.
Sérieux, je comprends qu'on veut le déranger. Je comprends qu'il prend beaucoup de place, Piqué. Mais pour ce qu'il a donné aux Canadiens, quand même donner des bonnes saisons, un trophée Norris, il adore Montréal et passe son temps durant l'été ici. Sérieux, je m'explique mal c'était quoi la motivation des gens de le huer. Est-ce qu'on huait le joueur de hockey, l'être humain, l'ancien joueur du Canadien? Sérieux, là.
Est-ce que tu as en tête un autre cas où est-ce qu'il y a une équipe de la Ligue nationale qui a hué un ancien joueur qui n'est pas parti de lui-même, mettons, comme agent libre? T'as-tu déjà vu ça? Il me semble que j'ai jamais entendu parler d'un cas similaire.
Patrick Roy s'est fait huer à son retour à Montréal.
Okay.
Lui aussi, c'était dans des circonstances un peu plus nébuleuses, parce que, bon, tu te rappelles comment Patrick Roy a quitté Montréal. Je pense pas que c'est la même situation que Piqué. Mais oui, ça peut arriver. Tu sais, les gens au Centre Bell eurent Connor McDavid, Sidney Crosby, Alex Ovechkin. Ces gars-là n'ont pas joué pour le Canadien.
C'est ça.
Mais je pense qu'on veut simplement huer le meilleur joueur de l'autre équipe. Mais dans le cas de Piqué Subban, premièrement, c'est même pas le meilleur joueur des Devils. Et aussi, il méritait pas un tel traitement.
Ouais. Merci, Will.
Merci.
On se reparle dans quelques minutes. Quelques petites nouvelles pour terminer. D'abord, je vous parle beaucoup de météo, bien entendu, parce qu'on a des circonstances météorologiques assez exceptionnelles pour un 18 novembre, la quantité de neige qu'il y a eu, plus verglaçante qui va tomber. Mettez-vous dans la peau maintenant des agriculteurs, des producteurs notamment de grains qui ont poussé un cri du cœur en fin de semaine. C'est les producteurs de maïs et de soya, notamment, qui ont demandé une rencontre d'urgence avec le gouvernement pour essayer de couvrir les pertes qui ont été encourues par les conditions météo. On dit que presque 10% notamment de la production de soya qui est en péril. C'est la même chose pour la production de maïs. On dit que c'est, à moins qu'il n'y ait pas d'accumulation de neige, on n'est pas capable de récolter ce qui reste présentement. Donc, imaginez la situation. C'est certainement pas les conditions météorologiques dans lesquelles ils pensaient faire leur récolte cette année. Mais il faut dire qu'il va peut-être falloir s'y faire parce que de plus en plus, il semble que les précipitations de neige soient plus hâtives du côté de la province de Québec. La chronique de Mylène Moisan dans Le Soleil ce matin a attiré mon attention. Ça s'appelle le CHSLD, le jour et la nuit. Et c'est vraiment un bon cas-type de situation où est-ce que tu as les mêmes financements, les mêmes conditions au Québec dans le système public et des résultats complètement différents. C'est une dame qui s'appelle Marie-Claire, évidemment c'est un nom fictif. Son père était atteint d'Alzheimer, sa mère s'en est occupée, mais à un moment donné, comme de fait, ils ont dû le placer dans un CHSLD. Ils voulaient d'abord en trouver un très proche de chez sa conjointe pour essayer d'avoir le plus d'interactions possibles entre les deux, bien entendu. Mais en attendant, ils n'en ont pas trouvé. Ils ont trouvé un CHSLD plus éloigné. Saint-Denis. Et la dame en question qualifie le CHSLD où est-ce qu'ils ont placé son père au départ de 5 étoiles. Elle dit « ça a été magique, l'humanité, l'amour, la gentillesse du personnel, les employés s'en occupaient, ils l'aimaient, le chouchoutaient même, le médecin était présent, on appelait ma mère pour donner des nouvelles de mon père, l'infirmière chef venait nous saluer, elle dit « écoutez, j'aurais rien pu demander de mieux pour ça ». Sauf qu'un an et demi plus tard, ben comme je vous l'ai mentionné, elle voulait que son père soit plus proche de sa mère, c'est logique. Et ils ont fini par avoir une place dans un autre CHSLD qui était proche de la résidence de la conjointe de son père. Sauf que quand ils sont arrivés, on dit ben c'était complètement différent. La chambre était sale. On a mis mon père en couche. On ne nous en a même pas parlé. Ma mère a pleuré dès qu'elle l'a su parce que évidemment on l'avait pas averti. Le médecin, on n'avait pas de nouvelles. Ma mère essayait d'appeler. Elle a fait 60 coups de fil au CHSLD. Jamais personne ne la rappelait. Et puis on a vraiment eu l'impression que mon père passait d'un environnement très humain. Elle qualifie ça quasiment de resort 5 étoiles, là, comme je vous le disais. Là. Elle dit, a passé à un endroit où est-ce qu'il n'y a personne qui s'en occupe. Il y aurait eu une plaie de lit aussi. Il y avait des restes de nourriture dans son fauteuil roulant qui qualifiait de la poubelle roulante. On lui disait se brosser les dents, mais son père n'était pas capable de le faire. Fallait qu'elle lui coupe les cheveux. Bref, tu n'avais aucun service par rapport au premier CHSLD. Alors, tu te retrouves vraiment avec deux situations où est-ce que tu devrais avoir à peu près le même service, parce que c'est deux CHSLD de la région de Québec qui sont pas nommés dans la chronique de Mylène Moisan. Mais dans un des cas, son père a été extrêmement traité. Dans l'autre cas, malheureusement, ben il a subi de la maltraitance ou carrément de la négligence. Et puis, elle s'explique mal comment ils ont pu l'échapper à ce point-là, puis comment il peut y avoir une divergence entre deux CHSLD de la même région. 5h25, merci d'avoir été avec moi dans l'amorce. On se reparle demain matin 5h. D'ici là, dans quelques minutes, c'est Bouchard en parle. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.